On est vraiment dans notre série de prédications, toujours sur le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, on a pu en dire déjà pas mal de choses, notamment on s'est arrêté sur qui est le roi, qui est celui qui est à la tête de ce royaume. On a aussi vu que ce royaume, c'était une période un peu particulière pour nous dans le présent, puisqu'il y a déjà le roi qui est arrivé dans le passé. Mais il n'est pas encore revenu et nous, on est vraiment dans cet entre-deux, dans ce trait d'union. Dans ce trait d'union que j'ai essayé de mettre en gras, en gros, c'est ce trait d'union de l'Église qui va bientôt apparaître. C'est là que nous sommes appelés à vivre, c'est le présent de notre temps, c'est le présent de l'Église. Je ne vous apprends pas forcément quelque chose en disant cela, mais c'est toujours bon de pouvoir se replacer dans cette perspective que déjà le Christ, le roi, est venu. Pas encore ce royaume s'est totalement révélé, mais dans ce trait d'union, il y a des petits signes du royaume, il y a des petits signes qui se manifestent dans nos vies de tous les jours. Et c'est ce que nous pouvons vivre en communauté, en Église, tous ensemble. Et puis le royaume, c'est bien joli, mais on va se demander ce matin, oui, évidemment, mais avec qui? Avec qui on forme le royaume? Et pour cela, je vous invite à méditer un texte qui se trouve dans l'Épître aux Galates. C'est un texte assez connu, vous allez le voir. Et puis, c'est important de se rappeler que dans cet Épître aux Galates, Paul, l'apôtre, qui a écrit plusieurs lettres du Nouveau Testament, dans cet épître-là, dans ce qu'il écrit à ses Galates, il est particulièrement en verve. Il est même presque un peu énervé. Donc ce qu'il dit, il le dit avec beaucoup de punch, il le dit avec beaucoup de force, il le dit avec beaucoup de conviction. Et les paroles qu'on va lire, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous allez les découvrir ce matin, mais j'aimerais bien qu'on puisse se les approprier avec le même punch avec lequel Paul les écrit à ses Galates. C'était une église de la Turquie actuelle. Puis ils étaient un peu aux prises avec différentes tendances, et puis même une tendance qui voulait revenir en arrière, revenir aux pratiques qui étaient avant que Jésus n'arrive dans le monde. Et puis, sur terre. Et puis, Paul, il se bat vraiment avec force pour se dire, écoutez pas tout ce qui est faux là dans ces enseignements, mais continuez d'écouter cette parole qui vient de Dieu, le roi, qui vient de Jésus, le roi. Donc, on peut vraiment lire ce texte avec le punch et puis la vigueur qui habite Paul lorsqu'il écrit ces lignes. Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la famille d'Abraham, vous êtes des héritiers, comme Dieu l'a promis. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est déjà lui, peut-être comme Bose, le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants. Nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pourquoi ? Pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu vous a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Ouais, j'avais oublié de switcher. Amen. Si on reprend notre thème de semestre, donc, l'Église, vous l'avez compris, ce sont les citoyens du royaume. Et ces citoyens du royaume, ils ont une identité bien particulière qui va bien au-delà de la simple citoyenneté que j'essaie d'illustrer avec ce passeport helvétique. Qu'est-ce qu'on fait quand on est simple citoyen? Généralement, la première réponse qui sort, c'est on paye des impôts, exactement. C'est toujours, quand je j'exprime, mais qu'est-ce que vous faites en tant que Suisse? Ben, on paye des impôts. Effectivement, parce qu'on est peu à être exempt d'impôts. On n'en paye peut-être pas, mais par contre, il y a peu de personnes en Suisse qui sont exemptes d'impôts. C'est vraiment ce qui nous lie de manière première, presque, c'est qu'on contribue tous et tous à la collectivité par le fait de payer des impôts. Ce n'est pas très, très heureux non plus. La deuxième chose qu'on peut dire quand on est Suisse, quand on est simple citoyen, c'est qu'on a le droit, et c'est un droit chèrement acquis, auquel je suis très attaché, on peut aller voter. C'est ce qu'on est bientôt appelé à faire. On est en pleine période d'élection, vous l'avez vu, pour plusieurs sujets. C'est peut-être une des deuxièmes caractéristiques d'être citoyen helvétique, c'est qu'on a le droit, la possibilité, peut-être même des fois dans certains cantons, le devoir, d'aller voter. Mais là, de nouveau, est-ce qu'on est vraiment tous ensemble? Les statistiques sont assez cruelles, puisqu'il y a rarement plus de la moitié de la population suisse qui va voter. Donc, on est plutôt un peu placé, en tout cas, peut-être flemmard, je ne sais pas, ou en tout cas, un peu divisé par le fait qu'on va voter ou pas. Il n'y a plus que la moitié des personnes qui va. Puis ensuite, on peut encore aller plus loin dans la citoyenneté helvétique, par exemple en s'engageant comme conseiller communal, en s'engageant dans la société, en s'engageant dans les instances politiques. Mais alors là, le spectre se réduit encore drastiquement, puisque je pense que, là, je n'ai pas de statistiques sous la main, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de pourcentage de personnes qui s'engagent dans ces institutions qui font vivre notre pays. On le voit, on peut prendre une part active à la société, c'est certainement bon. On peut vivre en tant que citoyen de différentes manières, mais il me semble que la citoyenneté qui est la nôtre en tant que chrétien, en tant qu'héritier du royaume, elle est passablement différente. Il me semble qu'en étant citoyen du royaume, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intense, de beaucoup plus entreprenant dans le sens où ça nous implique beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que premièrement, en étant citoyen du royaume, et c'est ce que nous dit ce texte de manière fondamentale, on change non seulement notre citoyenneté, mais presque même notre appartenance familiale. Puisqu'on devient fils et fille, plus seulement de nos papas et mamans terrestres, mais également fils et fille du roi. C'est extraordinaire quand on y pense. On change complètement notre identité. Ce roi dont on a parlé les précédentes fois, ce roi qui vient à nous, ce créateur qui vient à nous se faire proche de nous, on a le pouvoir d'être appelé ses enfants. On a le pouvoir de dire à ce roi, Abba, Père. C'est Abba, c'est vraiment avec beaucoup d'affection qu'il y a dans ce Abba. Je ne vais pas faire une théorie ce matin là-dessus, mais il y a vraiment beaucoup d'affection et de proximité dans ce Abba, dans ce cri qu'on peut offrir au Père. Il y a vraiment un lien extrêmement fort. Et deux fois, dans l'épître, là, il dit, « Oui, en croyant en Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu. » J'aime beaucoup ce « oui », et puis il le répète encore au verset 6 après, « Oui, vous êtes vraiment ses enfants. » Les Galates, ils devaient être dans le doute, parce qu'on leur avait insinué le doute sur le fait qu'ils étaient vraiment ou pas enfants de Dieu. Ils commençaient à douter de leur citoyenneté, finalement, d'être oui ou non des citoyens du royaume. On remettait en cause leur foi. Et puis Paul, il doit vraiment prendre toute sa vigueur puis dire, n'allez pas dans cette erreur-là, car oui, vous êtes véritablement ses enfants. En étant baptisé, vous êtes vraiment ses enfants, vous êtes rentré dans cette famille et rien ne va pouvoir vous en faire sortir. Et ça, c'est une promesse qui est extraordinaire, que tous et toutes, on puisse dire ce oui, nous faisons partie de cette famille. Oui, le Christ qui est roi, c'est véritablement notre Père, notre compagnon sur cette terre. Ce n'est pas quelqu'un qui est distant, ce n'est pas quelqu'un dont on peut être séparé, car il y a ce oui fondamental de Dieu qui nous dit « Oui, je vous ai accepté comme étant mes enfants. » Et il nous a envoyé dans son cœur l'esprit de son Fils. Cette présence que l'on sent, c'est l'esprit de son Fils, c'est l'Esprit Saint qu'on appelle. Puis c'est beau de voir que c'est vraiment l'Esprit du Roi qui nous habite là, c'est clair dans le texte. C'est vraiment l'Esprit de son Fils qui nous permet de mettre en avant cette relation « Abba, Père », de nous écrier « Abba, Père ». Cette exclamation nous fait vraiment entrer dans une nouvelle ère, un monde nouveau, et surtout il nous offre une nouvelle citoyenneté. Nous ne sommes plus simplement des citoyens suisses, mais je pense qu'avant tout, nous sommes des citoyens du royaume. Nous ne sommes pas seulement là pour payer nos impôts et voter, mais on est là pour beaucoup plus quand on fait partie de la famille des enfants de Dieu. On a une citoyenneté qui nous pousse en avant, qui nous implique beaucoup plus. Et du coup, ça a quelques conséquences. La première application que je trouve et que je vois quand je réfléchis à ce que ça peut signifier d'être citoyen à tous ensemble du royaume, c'est qu'il y a une forme d'intensité, voire même une intensité certaine. Comme ce qui nous unit, c'est beaucoup plus qu'un passeport en commun, il peut arriver que dans l'Église, il y ait une forme d'intensité relationnelle qui soit un peu difficile à vivre. De même, il y a aussi des fois une forme d'intensité au niveau des intentions. On a tous envie de bien faire. Et puis, comment rester tous ensemble quand on a tous envie de bien faire, hein? C'est vraiment des défis qui nous sont donnés. Il y a toujours beaucoup plus de chances d'avoir des frictions lorsque l'on est proche des uns des autres que lorsque l'on est éloigné des uns des autres. Et là, dans l'Église, on fait partie d'une seule et même famille. Le terme est fort. Et comme on le sait bien, les familles sont souvent des grands lieux de bénédiction, mais ça peut aussi être des grands lieux de frustration, voire de blessures. Il ne faut pas se cacher l'intensité des relations, l'idéal que nous sommes censés vivre tous ensemble, peut être une source de grande joie, comme de grandes difficultés. Parfois, j'ai l'impression, quand j'entends, que tout est amplifié dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on est impliqué dans cette même famille. Il y a une intensité qui est là, qui est fondamentalement belle, mais qui nous pose aussi certains défis. Parce qu'on a tous envie de bien faire et parce qu'on est proches les uns des autres. Le défi qui nous est donné quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas être enfant de Dieu chacun dans son coin, mais c'est vraiment être enfant de Dieu ensemble, faire partie de la même famille, proches les uns des autres. Et quand j'ai l'impression qu'il y a tout qui est amplifié d'un côté, il y a vraiment une certaine normalité à cela. La proximité relationnel fait certainement qu'au sein de l'Église, on est plus sensible aux attitudes de l'autre, à ses paroles, et que dire de ses critiques si elles devaient arriver. Et ce n'est pas pour rien que Paul, dans d'autres de ses épîtres, consacre vraiment des pages et des pages et des pages à cette dynamique relationnelle au sein de l'Église. En marchant ensemble, en vivant ensemble cette intensité de la vie de l'Esprit, moi je trouve qu'on vit chaque jour un petit miracle. Il y a quelque chose d'extraordinaire, et puis là, je vois vraiment déjà le pas encore qui vient sur cette terre, puis de se dire que chaque jour qu'on peut vivre ensemble, en unité dans l'Église, en marchant véritablement ensemble, mais pas indifféremment les uns aux autres, on vit chaque jour quelque chose du royaume. J'espère qu'on puisse s'en rendre compte, mais il y a quelque chose du royaume dans ce fait de tirer tous ensemble à la même corde, d'être là, unis, pour louer Dieu, pour vivre ensemble notre identité nouvelle. Il y a à chaque fois, pour moi, un petit miracle qui se réalise lorsqu'on le vit. Puis alors qu'on a vécu, là, mercredi, on était avec Eduardo dans un petit groupe qui s'appelle Marque l'expérience, puis d'autres, je ne sais pas si je ne les ai pas vus, mais là, on ressentait de nouveau qu'on était vraiment tous ensemble en train de marcher à la suite du Père, imprégnés par son amour. Puis c'est ces moments de grâce, comme Bose, par rapport auxquels on peut dire merci. C'est quand même mieux que dingo, je trouve. Ces moments de grâce, là, qu'on peut dire merci pour ce qui nous arrive. Dans l'Église, je remarque aussi qu'il y a souvent beaucoup de bonnes intentions, des envies de bien se faire, une belle intensité à vouloir servir le Seigneur. Et c'est vraiment parce qu'on est beaucoup plus que simple citoyen. Si on regarde aussi tout ce qui se passe dans l'Église, on remarque, si on prend le temps d'observer, que tout ce qui est mis en œuvre, toute l'énergie qui est consacrée, c'est l'énergie qui va bien au-delà de la simple citoyenneté. On consacre du temps, on consacre de l'énergie, on met nos dons à disposition pour faire vivre l'Église, pour qu'elle puisse rayonner dans le monde qui nous entoure. Et puis tous ces éléments-là, ce n'est pas de la normalité. C'est signe d'une intensité qui nous est donnée par le Père. C'est signe d'une volonté qui nous fait aller de l'avant, parce que nous sommes fiers d'être fils et filles du roi, parce qu'on a envie d'aller de l'avant avec cette nouvelle identité. Et puis, ça se retrouve aussi chez les premiers chrétiens. On a pu lire un livre là, pour se préparer à la retraite du Conseil. C'est un historien qui l'a écrit. Et puis, il s'est fortement intéressé sur les premiers siècles du christianisme. C'était vraiment très, très intéressant comme lecture. Et puis, ce qu'il montrait, c'est que les premiers chrétiens, ils n'avaient aucun moyen. Ils étaient très, très pauvres. Ils n'avaient aucune influence politique ou quoi que ce soit. Mais il se trouvait qu'ils étaient très attirants. Malgré le fait qu'ils étaient souvent persécutés, marginalisés, mis un peu de côté, ils étaient très, très attirants pour les autres. C'est comme ça que le christianisme s'est développé. Parce que les premiers chrétiens étaient attirants pour les autres. On se posait des questions sur leur comportement. Et une des questions principales qu'on leur posait, c'était justement pourquoi est-ce qu'ils s'appelaient frères et sœurs entre eux? Pourquoi est-ce que ils arrivaient à aller au-delà des liens de famille de sang pour s'appeler frères et sœurs entre eux. Donc c'est significatif hein, quand on s'appelle mon frère, ma sœur, des fois ça fait un peu rire, mais il y a un côté vraiment uni, et puis cette union des chrétiens au sein d'une même famille, c'est vraiment ce qui faisait que les autres disaient « mais attends, ils ne sont pas comme nous ceux-là ». Il y a quelque chose d'autre, et c'était cette union au Père, de pouvoir s'accrocher au même Père. Il faisait vraiment envie aux autres. Par quoi ? Par l'intensité de leur relation. Une autre application de cette fait d'être enfant de Dieu, de pouvoir appeler notre Père Abba Père, ça implique d'être libre. Il y a une liberté qui se dégage. C'est ce que nous dit Paul, vous n'êtes plus sous le couvert, notamment de la loi, mais vous êtes libre. Ma présence, le roi, est un roi qui libère. Je trouve que c'est une affirmation que peut-être qu'en Église, on la comprend, mais si on la sort à l'extérieur, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la perception qu'on a de la religion, c'est plutôt quelque chose qui enferme. Hein. Il y en a peu qui disent que la religion, regardez comme c'est un espace de liberté extraordinaire. Regardez comme ils sont libres, c'est phénoménal. Là, je pense qu'on a une petite interpellation à recevoir. Comment ça se fait que l'extérieur considère que les gens religieux sont des gens qui manquent de liberté? Puisque véritablement, ce qu'on est appelé à vivre, c'est une liberté nouvelle. Pour beaucoup, la religion, c'est être enchaîné à des règles, c'est être enchaîné à un maître, c'est être enchaîné à des traditions. On pourra encore égrener la liste longtemps. Alors, liberté en quoi? Je pourrais faire toute une prédication là-dessus, mais je pense que je vais juste donner quelques points. Mais premièrement, c'est une liberté si je suis ce trend d'un peu que je vais suivre ce matin de la famille, le fait qu'on est tous ensemble, c'est une liberté par rapport à nos appartenances anciennes ou nos appartenances de sang. Il y a vraiment une liberté qui nous est donnée par rapport à cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect par rapport à nos parents, évidemment pas, ça ne veut pas dire qu'on doit faire exploser nos familles, mais ça veut dire qu'il y a quand même une liberté en Dieu par rapport à nos appartenances. Les appartenances qui peuvent être piégeantes, qui peuvent être enfermantes, Christ nous offre une liberté. Et cette liberté va permettre de vivre aussi des relations familiales de sang renouvelées, d'après moi. On peut aller au-delà. On peut aller au-delà d'un passé familial qui est difficile parce que Christ vient nous offrir sa liberté. On n'est pas enfermé dans des structures familiales. On est appelé à vivre autre chose. On peut évoquer aussi certaines libertés par rapport à des dépendances, par rapport à certaines personnes, par rapport à certains cercles. On peut vraiment faire une liste, puis je pense qu'elle est personnelle pour chacun, en quoi Christ apporte la liberté par rapport aux endroits où on était enchaîné dans nos vies. En quoi Christ apporte la liberté par rapport aux endroits où on était enchaîné dans nos vies. Et il y a des quantités de témoignages qui sont là, on pourrait les raconter. Il nous offre la liberté. Et la troisième application que je vois dans ce texte, c'est qu'en Église, on peut vivre une vie communautaire, une manière d'être ensemble qui est, et je pèse mes mots, prophétique, dans le sens où elle parle vraiment de Dieu, comme des signes vraiment de ce royaume. C'est ça qu'on dit d'après moi quand on dit prophétique, ça parle de Dieu, puis si on prend un peu dans notre thème de ce semestre, je pense que c'est vraiment des signes du royaume qui sont posés. Dans ce texte, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme libre ni esclave. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus de différence tout en gardant des différences. C'est évident. Alors comment s'en sortir? Premièrement, c'est que devant Dieu, on a toutes et tous le même statut. n'y a personne qui soit devant Dieu supérieur à l'un ou supérieur à l'autre. Devant Dieu, fondamentalement, on est tous au même niveau, tous le même accès à lui. On est tous ses enfants. Il n'y a personne qui puisse se dire « j'ai reçu un peu plus de la grâce de Dieu que toi ». Personne qui peut se dire « moi j'ai quand même un peu mieux compris, j'ai une plus grande proximité avec Dieu que toi ». Toutes et tous, on est là, il n'y a plus de différence entre nous. Alors évidemment, il y a des dons particuliers, il y a des caractéristiques particulières, des personnalités particulières, mais toutes et tous, on est enfants au même titre des uns des autres. Tous et toutes, on a ce pouvoir et cette liberté d'appeler le Père « Abba, Papa », d'avoir cette proximité. Ce qui nous maintient ensemble, c'est vraiment notre foi commune en Jésus-Christ. Et c'est prophétique dans le sens que pour moi, toutes les barrières possibles et imaginables de notre condition humaine sont balayées. C'est vraiment pas rien. Toutes les barrières qu'on peut se mettre, puis alors Dieu sait qu'on est fort en tant qu'être humain, toutes les barrières sont faites là pour être balayées en Christ. Alors prenons-les dans l'ordre. Il y a des barrières ethniques. Il n'y a plus ni juifs ni grecs. Alors peut-être qu'en Suisse, c'est pas forcément ce qui nous capte le plus, encore que, on va y venir. Mais j'ai discuté avec Reto par rapport à son voyage au Tchad. Là, ils sont, Reto Lampert et Barbara, qui sont en train d'être peut-être dans l'avion, je ne sais pas. Il y a une petite sœur qui est aussi au Tchad. Et puis, il me racontait juste un peu comment était organisée la société là-bas. Et puis, on se rend compte que les ethnies ont encore une force incroyable. Tout est, finalement, toute la structure sociale est gouvernée par le fait d'appartenir à la bonne ou à la mauvaise ethnie. Une parole comme celle de Paul qui dit « il n'y a plus ni juif ni grec », ça a vraiment une force prophétique. Là. Ça a une force qui fait exploser les frontières ethniques, les frontières claniques. De même en Suisse, j'ai pu vivre en 2010, je ne sais pas si je pense que certains d'entre vous y étaient avec moi, dans le stade de Suisse, à Berne, le jour du Christ. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées durant cette journée-là. Mais moi, le moment qui m'a le plus touché, c'est quand il y a toutes les églises qu'on appelle de migrants, sont venus devant et ont été présentés au public suisse d'une certaine façon. Alors, il y avait des communautés colombiennes, enfin, Amérique du Sud, africaines, des communautés asiatiques, et tous, ils étaient là avec les communautés, certains représentants de communautés helvétiques, et tous, on était là ensemble, devant, donc il y avait une forme de symbolique très forte, pour pouvoir louer Dieu. Et puis là, de nouveau, je pense que l'Église, elle a quand même un petit rôle prophétique dans notre société. Là, les étrangers, ils n'étaient pas perçus de manière que négative. Au contraire, on était perçus tous ensemble comme louant le même Seigneur. Suisses comme étrangers, Sud-Américains, Africains, tous dans la même barque parce qu'on partageait cette foi en Jésus. Puis comme image, c'était très fort. Parce que force est de constater que médiatiquement, chaque fois qu'on parle des étrangers, je pense que 95% du temps, c'est négatif. Là, il y avait une perception positive. Et puis, je crois que c'est aussi déjà notre réalité dans nos églises, où, je ne sais pas combien de nationalités on représente ce matin, mais il y en a beaucoup. Et tous, on est là, ensemble, pour louer Dieu. Donc, de nouveau, moi, je trouve que ça, c'est un petit miracle. C'est ces signes du royaume qui nous permettent déjà de vivre véritablement ce que c'est l'Église, ce tous ensemble. Ensuite, il y a le statut social. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Puis ça, c'est aussi une révolution, puisque s'il y a bien quelque chose qui est scindé dans nos sociétés, c'est de dire qu'il y a les riches, les moyens riches, les peu riches, puis les pauvres. Et puis, généralement, ils ne se parlent pas tellement. Normalement, au sein de l'Église, ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, là, de nouveau, tous, on vient devant Dieu avec le même statut, celui d'être son enfant, tout simplement. Et puis, de nouveau, là, les premiers chrétiens, c'était vraiment un signe de voir des riches et des non-riches, des esclaves et des hommes libres se réunir dans la même maison, dans la même salle. C'était un signe qui attirait les autres personnes. Comment ça se fait que ces catégories de personnes puissent être ensemble? Comment ça se fait? Ils se posaient des questions. Et la réponse, c'était parce qu'on croit au même Seigneur et que ce roi qui est venu dans nos vies, il change nos manières d'être. Il change nos manières d'être. Ensuite, il y a encore hommes ou femmes. On pourrait rajouter jeunes et vieux. On pourrait rajouter quantité d'autres choses. On est là tous ensemble pour louer le même Seigneur. On n'est pas là pour s'aider l'Église en public cible, on est là pour jouer tous ensemble le même Seigneur. Et si à la Frate, on dit souvent qu'on veut vivre cette diversité, ces différences pleinement et ensemble, c'est certainement que ce genre de paroles nous impacte particulièrement et nous ont impactés particulièrement. Ce genre de paroles nous font aller de l'avant et donne du sens à notre foi. une vie communautaire prophétique. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre en tant que citoyens du royaume, une vie communautaire prophétique. Alors je les ai mis sous deux catégories, toutes ces caractéristiques. Sous la catégorie des conséquences de notre nouvelle citoyenneté, citoyenneté de fils et filles du roi, et puis comme autant de défis. Parce que rien n'est acquis dans ce domaine-là. Rien n'est acquis, toujours le travail est à recommencer, toujours le travail est à remettre à nouveau sur le plan de travail. Je sais plus l'expression. On est vraiment là dans autant le domaine des défis que des applications. Comment assumer ce déjà que Jésus est venu transformer radicalement avant que tout soit complètement accompli à la fin des temps? On est vraiment dans cette tension. Hein. S'il n'y avait que des réalités et des applications vécues, on ne serait pas dans ce trait d'union. Mais là, on est plutôt dans le domaine des défis parce que c'est un travail de chaque jour de faire vivre au mieux cette communauté. Cette communauté qui va bien au-delà des frontières de la frate, évidemment. Puis pour terminer, j'aimerais vous laisser cette vision de la fraie que la fraie a choisie, vision qu'on a pu méditer pendant de longues heures ce week-end avec le conseil. On a vraiment pu essayer de la faire descendre parce que tous, on a un peu eu la première réaction quand on l'a lu ensemble pour partager l'amour de Jésus-Christ avec chacun, comme visée, comme vision. On se dit, mais bon, voilà, c'est ce qu'on fait déjà tout le temps, en fait. où est la dynamique qui nous pousse en avant? C'est presque un peu trop simple. Et puis, en fait, une grande force de cette vision, c'est qu'elle réside justement dans sa simplicité. Parce que quand on commence un peu à s'attarder sur chacun des termes, on se rend compte qu'il y a vraiment un programme de vie. Un programme de vie personnel et communautaire. Parce que le premier mot, puis c'est le premier mot que je vais un peu commenter ce matin, c'est vraiment ce « ensemble pour ». Vous l'avez compris, qu'il y a vraiment cet besoin et cette unité qui est nécessaire pour ensuite partager l'amour de Jésus-Christ avec chacun. Cette unité qui est là, cette volonté de travailler ensemble, ça peut nous donner une dynamique pour sortir, pour partager ce qui est dans nos cœurs. Si on est divisé, si on est éparpillé, on a beaucoup moins de force, on a beaucoup moins d'impact. Mais vraiment, il y a dans ce ensemble énormément de choses. C'est qu'on peut se serrer les coudes, c'est qu'on peut aller en avant, c'est qu'on peut s'écouter les uns les autres pour mettre sur pied des projets et surtout pour être animé et rempli de l'amour que l'on partage les uns avec les autres. C'est vraiment cette dynamique qu'on va essayer de faire descendre gentiment aussi, que nous, on a pu avoir le temps pendant quand même 24 heures de méditer dessus, puis de se dire mais qu'est-ce que ça peut signifier pour nos vies, pour notre vie d'église. Et puis je crois qu'on est ressorti assez enthousiaste de cette retraite. Et puis maintenant c'est le temps pour nous de partager simplement ce qu'on a sur nos cœurs, partager ce ensemble, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble cet amour de Jésus-Christ pour chacune et chacun. Parce que là aussi il y a un écho avec ce texte qu'on médite ce matin. On partage l'amour de Jésus-Christ pour chacun, ou avec chacun, pardon. Et puis là, il y a aussi beaucoup de choses qu'il nous a dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à faire des différences vers qui on va, mais on va vers chacune et chacun. On va vers ceux qui sont sur notre route, sans distinction de quoi que ce soit. Donc de nouveau, là, l'impact de la parole de Paul, le punch de la parole de Paul, on le retrouve, hein, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On va vraiment partager l'amour vers chacun. Alors voilà, je vous la laisse, cette vision, je vous laisse ce texte, ensemble pour partager l'amour de Jésus-Christ avec chacun. Loin d'être simpliste, c'est plutôt une belle simplicité qui nous est offerte là. Amen.